Le règlement est assurément le centre du PLU, son point névralgique. C'est la seule partie du document qui s'impose sans restriction aux porteurs de projet. Pour donner au PLU une orientation patrimoniale, il convient dès lors d'être particulièrement attentif à l'écriture du règlement. Les concepteurs du PLU ont en réalité des marges de manœuvre importantes. Sans aucun doute, les élus peuvent régler l'intensité de la norme, afin qu'elle réponde au mieux aux objectifs du PADD. Trois voies sont alors ouvertes. La première consiste à donner au PLU une coloration patrimoniale en introduisant dans le règlement des prescriptions d'ordre essentiellement qualitatif. Il s'agit d'exiger des projets de transformation des constructions existantes et des constructions nouvelles, le respect du bâti ancien, de son implantation, de ses volumes, de son architecture ou de son aspect, afin de conserver la typicité d'une zone ou d'un secteur que l'on peut parfaitement caractériser en lui attribuant un indice spécial, l'indice P. La deuxième voie, qui n'exclut pas la première, repose sur l'usage de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme. Il s'agit d'un usage modéré. Le règlement se contente d'identifier et de localiser des éléments ou des ensembles remarquables pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Aucune contrainte particulière n'est associée à ces éléments ou ensembles, si ce n'est une obligation de soumission à déclaration préalable pour la réalisation des travaux susceptibles d'entraîner une modification de l'état des biens répertoriés. La troisième voie est plus ambitieuse. C'est celle qui est aujourd'hui majoritairement choisie. Des prescriptions sont associées aux biens identifiés par le PLU. Elles peuvent être générales ou précises et plus ou moins exigeantes. Les seules limites sont qu'elles ne portent pas sur les intérieurs et qu'elles n'instituent pas une procédure spéciale d'autorisation comme un avis préalable d'un architecte conseil ou de l'ABF. Il semble même admis que le règlement puisse imposer le recours à certains matériaux sans toutefois exiger la mise en œuvre de savoir-faire particuliers. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'imposer la conservation du bien, notamment en interdisant sa démolition, ou simplement d'éviter sa dénaturation sans empêcher toute évolution ou reconversion, la règle du jeu doit être clairement formulée. La partie générale du règlement est nécessairement mobilisée. Il convient d'y introduire des explications sur les modes de prise en compte du patrimoine par le règlement. L'existence de zones ou de secteurs patrimoniaux, le recours à une identification des biens et ensembles remarquables au titre de l'article L151-19, l'indication éventuelle des biens répertoriés et des documents qui permettent de les identifier et de les localiser, listes, documents, graphiques. La partie générale du règlement peut aussi être utilisée pour formuler tout ou partie des prescriptions. Il ne pourra s'agir ici que des prescriptions générales, applicables à tous les éléments, ou ensembles répertoriés, ou à chaque catégorie. Les règlements de zone permettent d'affiner les prescriptions et ou de fixer avec plus de précision leur champ d'application, notamment territorial. La norme patrimoniale trouve naturellement sa place dans le chapitre du règlement relatif à l'emprise et au volume des constructions, et dans celui portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Mais des dispositions peuvent parfaitement être introduites dans d'autres chapitres, notamment celui consacré au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et à bord des constructions. Il faudra néanmoins veiller à ne pas trop éparpiller les règles afin de faciliter leur compréhension. Certaines normes peuvent aussi être exclusivement graphiques, comme les normes de hauteur. Le règlement doit aussi contenir une annexe patrimoniale dès lors qu'il est fait usage de l'article L151-19. Elle peut prendre la forme d'une liste, des éléments et ensembles répertoriés, mais aussi d'une série de fiches d'analyse de chaque bien assorti aux besoins de prescriptions complémentaires individualisées. Dans ce dernier cas, une disposition introduite dans la partie générale du règlement précisera les conditions d'articulation entre les normes, possibilité ou non pour un bien de déroger aux prescriptions générales. Enfin, tout ce qui relève de la recommandation doit être soigneusement mis à l'écart, c'est-à-dire chassé du règlement afin d'éviter toute confusion. L'écriture de la règle patrimoniale du PLU est donc un exercice périlleux. De sa qualité dépend la crédibilité du projet et ainsi sa réussite.